écoutez la voix prophétique du Christ aujourd'hui. Un chemin d'écuménisme. Voilà l'orientation de cette brève méditation que j'aimerais partager avec vous. Écoutez la parole. Le Christ parle aujourd'hui. Qui écoute ? L'écoute de cette parole avec un cœur de disciple est au cœur de notre foi chrétienne commune. Réjouissons-nous. Plus nous écoutons et pratiquons en vérité cette parole, plus nous devenons Église. L'Église que le ressuscité envoie aujourd'hui avec la force de l'Esprit pour proclamer cette parole. Bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'au dernier recoin du cœur humain, de mon cœur, de notre humanité. Tu es aimé et appelé à vivre en communion. C'était déjà l'écho que recevait le prophète Jérémie dans sa vocation. Avant ta conception, je te connaissais. Tu étais consacré pour nous inviter à élargir le regard, à entrer en profondeur qui je suis devant mon Dieu. Alors sur le terrain de l'écuménisme, la recherche de l'unité entre Église chrétienne, au sens premier du mot, comment avançons-nous ? Comment avancer aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu qui nous presse ? L'évangile d'aujourd'hui est un événement de cette semaine, la célébration œcuménique de la Pâque de l'abbé Pierre, vers son Dieu et notre Dieu, souligne un chemin à mes yeux décisif. L'écoute de la voix prophétique du Christ qui bouscule les cloisonnements, les enfermements de tous ordres, bien sûr ecclésiaux comme les autres, et ouvre, manifeste un chemin de communion, peut-être là où on ne pense pas beaucoup, en dehors de nos programmes, mais vrai chemin de communion. Alors, dans la synagogue de Nazareth, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'à nos yeux, tout ce qui s'est passé avec le Nazaréen aujourd'hui nous éclaire sur le chemin. L'homélie de Jésus est percutante. Les promesses de Dieu, faites par le prophète Isaïe, les lépreux sont guéris, les boiteux marchent, l'esprit travaille, se réalisent aujourd'hui dans sa parole et ses gestes. Et que fait Luc au long des chapitres ? Il détaille comment avec Jésus la parole sauve ceux qui osent s'ouvrir à la parole, ceux qui osent croire, se laisser rejoindre par cette parole et ses gestes inséparables. Alors avec Jésus de Nazareth, c'est non seulement un prophète de plus qui s'est levé, c'est l'envoyé du Père, le Fils qui manifeste la parole, la volonté, le cœur du Père, le visage du Père fait humain. C'est le Verbe fait chair, osera dire Jean. On pourrait dire, nous sommes sauvés, point. Tout est dit. Tu es sauvé. Il n'y a personne de condamné. Dieu s'est impliqué jusqu'au don de lui-même dans ton salut. La porte d'accès à cette bonne nouvelle, nous la connaissons. C'est oser se laisser rejoindre par cette parole, se laisser guérir, transformer, sauver par cette parole. Alors cette parole de vie, d'alliance, de communion rencontre des résistances. L'évangile d'aujourd'hui insiste sur ces résistances. Jésus rejeté par les Nazaréens, c'est déjà la préfiguration de Jésus crucifié par, j'aimerais dire aujourd'hui, l'homme pécheur. Crucifié par l'homme pécheur, hier, aujourd'hui. L'homme pécheur, entendons bien, c'est l'homme encore loin de Dieu. L'homme séparé, séparé de lui-même, séparé des autres, séparé de sa source. C'est l'homme qui est aveugle encore, qui est boiteux, qu'il ne laisse pas circuler l'amour, la parole de vie. Alors les Nazaréens, marqués par le péché, ne supportent pas le rappel de cette action de Dieu. À travers le prophète Élie, qui ne va pas à une des veuves de son peuple, Israël, mais à la terre de Sidon, terre païenne, terre étrangère. C'est là qu'il va, c'est là qu'il rencontre la foi, c'est là qu'il peut manifester l'action de Dieu face à la famine. De même avec le prophète Élie, quand il y a beaucoup de lépreux en Israël, c'est le Syrien, Naaman, qui sera guéri, parce qu'il a rencontré un terrain de foi. Qu'est-ce qui résiste chez les Nazaréens? Une image de Dieu, une perception de Dieu, d'un Dieu pour eux, d'abord, et non pas un Dieu pour l'autre, pour tous, pour l'étranger. Qu'est-ce qui dérange les Nazaréens? Un amour où ils ne sont plus les premiers ou les seuls, ils ne sont plus au centre, où ils ne peuvent plus être des propriétaires d'une vérité, d'une assurance vie. Où il s'agit au contraire de se mettre en route vers l'autre, vers une communion, où celui qui est au centre, c'est celui qui a faim, celui qui est malade, celui qui est autre. Cette marche, c'est un vrai pèlerinage, celui de la foi. Alors l'énergie de cette marche, et c'est l'humble foi du pèlerin, à 100 lieues des tranquilles sécurités religieuses, sociales, toutes les formes de sécurité, et nous sommes devenus habiles en cette terre d'Annecy, ce petit coin de terre, à être prisonnier de nos sécurités. Oh, pourvu que, je vais dire en espagnol, ojalá, pourvu que la foi vienne bousculer cette tentation. Aujourd'hui, la voix prophétique du Christ retentit dans le silence des cœurs priants. Eh oui, il faut du silence pour qu'elle retentisse. Dans les événements petits ou grands, il y a des jours où cette voix est célébrée, et je pense à avant-hier, vendredi, pour accompagner la Pâque de l'abbé Pierre. La communion qui s'est manifestée ce jour-là, autour de la dépouille mortelle de l'abbé, communion entre chrétiens de diverses confessions, entre croyants de religions différentes, entre croyants et incroyants, entre citoyens de différents bords. Cette communion, par quel chemin nous a-t-elle été donnée? Parce que l'expérience que j'entendais, qui circulait ces jours, c'est un don, un cadeau. C'est un cadeau qui nous a été offert cette semaine. Ce n'était pas la propriété de l'un, de l'autre, d'une église. C'était un cadeau offert à tous ceux qui avaient les bras ouverts. Par quel chemin? Par la vie de cet homme qui a choisi d'écouter son frère dans le besoin, d'écouter son Dieu, d'écouter avec ses charismes et ses limites, mais avec la grâce qui lui a été faite. Et j'aimerais lire ce qu'en dit le père Ricard, quand on dit écouter la voix prophétique. Il dit, cet homme qui a des coups de cœur, a aussi des coups de gueule. Il a une parole inscrite dans une tradition prophétique qui ne prend pas son parti d'une situation. Il dénonce, il interpelle. Il invite chacun à faire jaillir du fond de lui-même des forces de fraternité, de solidarité, de générosité. Comment ne pas reconnaître quelque chose de la voix prophétique qui résonne à Nazareth? Qui résonne là où on n'entend pas. Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Eh oui. Un homme à qui Dieu a donné la grâce de devenir un fils, et un frère en Christ pour tous. C'est bien un ferment d'écuménisme, cela. De l'écuménisme pour l'humanité. Les relations entre nous, chrétiens, confessions différentes, ne l'oublions pas, c'est pas pour se retrouver mieux, c'est pas pour une satisfaction de divers ordres, y compris spirituels, c'est pour que la parole passe, qu'on soit à la hauteur de la mission confiée de cette parole, pour tous. Cette écoute ouvre un chemin œcuménique, c'est-à-dire de construction, de fraternité, pour toute la terre habitée. Vous savez que l'étymologie du mot œcuménique, œcumène en grec, veut bien dire la terre habitée. Notre horizon, à nous chrétiens, et notre chemin, c'est la terre. Sans faire des morceaux, c'est la terre. Toute la terre, qui fait partie de l'univers, est la terre habitée, sans séparer déjà l'humanité de l'univers, de la planète. Tout est relié dans le dessein de Dieu. Alors où en sommes-nous sur ce terrain? J'aimerais en terminant souligner deux points. D'abord, réjouissons-nous de tout ce qui se vit sans bruit, à l'écoute de la parole et du frère dans le besoin. C'est extraordinaire tout ce qui se vit, sans bruit. Heureusement, parce que c'est ce qui porte la terre aujourd'hui. Tout ce qui se vit d'amour, qui traverse les cloisonnements, qui bouscule les frontières. En particulier ainsi, réjouissons-nous avec tous les signes que Jean-Marc soulignait. Ce qui se vit avec les sans-papiers, où il y a toutes les confessions, croyants et incroyants, avec les prisonniers au sein de la CAT, avec, je pense, ces prochaines élections qui viennent souligner une responsabilité sur le terrain politique. Un texte dans l'Église catholique circule en ce moment, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» et ouvre les chantiers de la fraternité. Abordez la responsabilité politique avec cette conscience. Écoutez le frère dans le besoin. Nous avons un beau travail ensemble. Le mercredi 14 février, à la salle Pierre Favre, tout près d'ici, il y aura d'une manière œcuménique, organisée par l'Église catholique, protestante, peut-être d'autres, un atelier citoyen et chrétien, ce mercredi 14. Oui, nous sentir attelés au coude à coude sur ce chantier. Que l'homme, selon le cœur de Dieu, soit connu, reconnu, debout. Nous sentir reliés au Christ sur ce chantier. Ce n'est pas une affaire secondaire que de nous sentir reliés en Christ sur ce chantier. Non pas parce qu'on a les mêmes positions, les mêmes idées, non, y compris dans le conflit, mais parce qu'on a au cœur le même feu de l'homme selon le cœur de Dieu. Alors que nos différences deviennent richesses, que ce qui nous sépare encore entre confessions chrétiennes ne nous laisse pas en paix, parce que nous sentons combien cela fait écran à la parole libératrice offerte en Christ. Il nous revient d'être davantage pèlerins de la foi et de la fraternité, pèlerins d'Emmaüs. Alors je ne résiste pas à la joie de vous lire une prière de ce pèlerin d'Emmaüs. Regarde-nous, dit-il. Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs. Nous sommes tous des cœurs lâches. Nous aussi. Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. Entre avec nous t'asseoir à notre feu et qu'exulte tant de joie triomphale à notre tour, nous nous relevions pour bondir révéler la joie à tout homme au monde, car l'amour à jamais, jusqu'à notre dernier souffle, sera notre vie.